France Inter.
Bonjour à tous. Si ça marche, on retiendra que l'annonce a été faite un 24 décembre. Le groupe français Thomson Computing propose de reprendre une partie de l'activité de Brandt, le fabricant d'électroménagers pourtant liquidé le 11 décembre. 150 postes sur 700 seraient préservés sur le site d'Orléans. Une intimidation, une mesure de coercition à l'encontre de la souveraineté européenne. Emmanuel Macron répond à l'instant à Donald Trump après les sanctions américaines contre 5 personnalités européennes, dont l'ancien commissaire Thierry Breton, tous visés par une interdiction de séjour parce qu'ils ont participé à la mise en place de la régulation du numérique dans l'Union. On en parle avec notre invitée, l'eurodéputée centriste Nathalie Loiseau. Dans ce journal aussi, vous entendrez comment la Russie s'en prend à WhatsApp. Y aura-t-il un Zidane sur la pelouse tout à l'heure en Coupe d'Afrique des Nations de football? Bonjour Jean-Pierre Bimeau.
Bonjour.
Zidane, fils, hein, peut-être pour garder le but de l'Algérie cet après-midi.
Oui, à 27 ans, pour lui, c'est une belle occasion de s'installer durablement dans les buts de la sélection algérienne, alors que son père, Zinedine, est pressenti pour prendre la tête des Bleus après la Coupe du Monde.
Lucas Zidane avec vous tout à l'heure, Jean-Pierre. Dans sa chronique cinéma, Alexis Demeyer nous emmène dans les Alpes, dans la campagne chinoise et sur l'île d'Amrum en Allemagne. À partir de 13h30, encore un peu de cinéma, un lapin et un renard qui travaillent ensemble, un serpent vraiment très gentil. Ce que dit le succès du dernier film de Disney, Zootopie 2, ce qu'il dit ou pas des comportements des animaux. Discussion avec nos deux invités spécialistes des comportements animaux, 01 45 24 7000 pour vos questions. À 13h45, Didier Deschamps parle d'Ousmane Dembélé, c'est notre feuilleton sur les traces du Ballon d'Or 2025. Dans C'est la France, éloge du silence avec Eric Fotorino au moment même où le brouhaha est roi dans nos salons pour le réveillon. Et l'envolée du grand Charles, Emmenez-moi, choisi par le magistrat et romancier Eric Alphen dans C'est une chanson avec Frédéric Pommier. Voilà le 13-14 de France Inter, c'est parti, soyez les bienvenus.
France Inter.
Vous êtes peut-être déjà en famille à préparer cadeaux et victuailles bien au chaud, le réveillon se fête et se partage ce soir. Mais pour 2 millions de Français, Noël est synonyme de solitude. 2 millions de personnes isolées selon le baromètre annuel des petits frères des pauvres, principalement des personnes âgées. Alors comme chaque année, l'association fait office de Père Noël pour ses bénéficiaires. Exemple à Reims, où Elsa Fournier a suivi des bénévoles.
Des cadeaux en main, Auréa arrive chez Madame Monclin, 82 ans. L'étudiante lui rend visite toutes les deux semaines.
Vous avez du pâté, oui. De Saint-Jacques, vous avez de la truite. C'est pour vous fêter un petit peu le réveillon. Ben non.
Je suis trop gâtée, non.
Vous êtes contente de vos cadeaux?
Oh oui, c'est beaucoup trop. Oh, je remercie l'association. Hein.
Ginette Monclin vit seule depuis 15 ans. Et même si cette année, sa famille va passer la voir pour Noël, ce moment lui fait beaucoup de bien.
Il y a les enfants, les petits-enfants et les arrières. C'est pas comme si qu'ils étaient à côté, quoi.
Ça vous fait du bien de voir des gens comme ça?
Ah oui, oui, ça fait du bien. C'est mieux que d'être tout seul. Hein. Parce que quand j'ai perdu mon mari, moi j'ai tout lâché. Hein. Du jour au lendemain, pouf.
C'est justement pour lutter contre cet isolement qu'Auréa continue ses visites.
Voilà, c'est pour vous montrer qu'on pense
merci
à vous.
Merci beaucoup. Alors c'est la, tout ça, c'est
l'association. Tout ça, c'est l'association.
Passer, bah, ça permet déjà de maintenir un lien social avec les personnes. On est vraiment là pour porter une oreille attentive, surtout leur faire comprendre que si elles veulent parler de tout ce qu'elles veulent, elles peuvent, et leur faire comprendre qu'elles sont vraiment pas seules, et surtout en période des fêtes.
Et pour rendre les fêtes encore plus belles, l'association propose aussi un repas de Noël à une trentaine de bénéficiaires.
Elsa Fournier, ici Champagne-Ardennes. Tout le monde pensait que l'affaire était faite. Hein. Les salariés de Brandt, les premiers après la liquidation judiciaire, décidée il y a deux semaines par le tribunal administratif du fabricant français d'électroménagers. Deux sites rayés de la carte, 700 salariés désormais au chômage. Eh bien, une petite lueur d'espoir est allumée ce matin à Orléans. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Le maire a organisé une conférence de presse en ce 24 décembre pour annoncer un projet de reprise.
Oui, adossé à un industriel tricolore, Stéphane Français, fondateur et directeur général aujourd'hui de Thomson Consulting, qui prévoirait la reprise potentielle d'un peu moins de la moitié des salariés sur le site orléanais. 150 postes seraient préservés sur les 350 que comptait jusqu'ici l'usine. Le maire d'Orléans, Serge Grouard, veut y croire, lui qui s'est donc réservé ce matin la primeur de l'annonce de ce plan.
Il est construit, il est sérieux, il y a une prise de risque, mais la vie est risquée par définition.
Le maire d'Orléans qui insiste sur l'importance d'aller très vite pour relancer la machine, garder un cœur de salarié et le plus de clients possible. L'élu qui tient à saluer les efforts du ministre de l'Industrie dans ce dossier, qui selon ses mots, mouille le maillot pour trouver une solution. Sébastien Martin à Bercy qui prend note de ce projet de reprise, mais qui semble temporisé toutefois, rappelant que toute piste mérite effectivement d'être examinée avec attention, mais aucune ne saurait être tenue pour acquise sans un travail d'analyse approfondi. L'objectif pour le gouvernement reste le même, à savoir assurer un avenir industriel crédible et durable au site de Brandt, dans l'intérêt des salariés, mais surtout sans précipitation, au risque de proposer un projet instable sur le long terme.
Maxime Deps pour ses explications. Là, c'est un groupe français qui achète une entreprise étrangère. Le géant pharmaceutique Sanofi a signé un accord pour acquérir l'entreprise américaine Dynavax, valorisée à environ 2 milliards de dollars. Dynavax commercialise notamment un vaccin contre l'hépatite B. Il a donc reçu une interdiction de visa en guise de cadeau de Noël. Thierry Breton, persona non grata aux États-Unis, le français ancien commissaire européen, visé hier soir par l'administration Trump avec quatre autres personnalités européennes pour sa politique de régulation des grands acteurs de la tech, hein, surtout les réseaux sociaux qui sont en grande majorité des entreprises américaines. Washington parle de censure contre les opinions américaines auxquelles s'opposent les idéologues européens. Ce sont les propos du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio. Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Vous êtes députée, eurodéputée du groupe Renew, le groupe centriste au Parlement européen. Votre réaction dans un instant. D'abord, bonjour Marie-Marty Rossian.
Bonjour Kevin.
Rédaction internationale de France Inter. J'aimerais qu'on revienne avec vous sur l'historique entre Thierry Breton et Washington. Le bras de fer dure depuis des années.
Oui, pour cause, Thierry Breton est l'artisan du DSA, le Digital Services Act, texte voté à 90% par le Parlement européen pour réguler les plateformes de la tech en les obligeant par exemple à signaler des contenus problématiques, des règles que les États-Unis, vous l'avez dit, considèrent comme une atteinte à la liberté d'expression. Thierry Breton, lui, a régulièrement défendu ce texte, comme ici en août 2023, au moment justement de son entrée en vigueur.
Et j'entends certains dire ça va être la fin de la liberté. Au contraire, c'est beaucoup plus de liberté, c'est la garantie de liberté. C'est tout sauf le ministère de la censure.
Depuis, les altercations se sont multipliées sur les réseaux entre Thierry Breton et le milliardaire Elon Musk, propriétaire du réseau social X. Exemple, il y a un an, alors qu'il fait partie du gouvernement de Donald Trump, Elon Musk affiche son soutien au parti d'extrême droite allemande de l'AFD à quelques semaines des élections législatives en Allemagne. Ingérence étrangère, fustige alors Thierry Breton, s'attirant les foudres du milliardaire, mais il maintient sa position.
Il a le droit de dire absolument ce qu'il veut, mais s'il utilise comme moyen d'expression un réseau qui lui-même est désormais régulé pour protéger nos enfants, nos concitoyens, nos démocraties en Europe, il doit juste respecter précisément ce droit.
Il y a deux semaines, le réseau social X a écopé d'une amende de 120 millions d'euros justement pour ne pas avoir respecté ses règles européennes. Washington avait alors menacé l'UE de représailles. C'est un vent de macartisme qui souffle sur les États-Unis, résonne donc ce matin Thierry Breton.
Marie-Marty Rossian. Nathalie Loiseau, je reviens vers vous. Emmanuel Macron a réagi il y a une heure. Il dénonce une intimidation. Est-ce que vous reprenez ce mot intimidation de la part des États-Unis ?
À l'évidence, les États-Unis sont dans une sale période. Vous vous rendez compte qu'il vaut mieux être Vladimir Poutine ou ses émissaires pour se rendre aux États-Unis que Thierry Breton, ancien commissaire européen. On a l'impression que les États-Unis, c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire que les adversaires d'hier deviennent les amis et les alliés d'hier deviennent des adversaires.
Ce que ça veut dire, c'est que la relation entre l'Europe et les États-Unis aujourd'hui est largement entamée.
Ce que ça veut dire, c'est que l'administration Trump mange dans la main des géants de la tech. Que ce que veut ou ce que ne veut pas Elon Musk ou Mark Zuckerberg devient parole d'évangile pour le gouvernement américain. C'est assez choquant de voir une espèce d'oligarchie se mettre en place. Les plateformes américaines, bénéficient du marché européen. Il y a 450 millions d'utilisateurs potentiel de ces plateformes. C'est le premier marché solvable au monde pour les grands réseaux sociaux américains. Si elles veulent faire des affaires en Europe, pas de problème, à condition qu'elles respectent nos règles. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que les États-Unis réinventent le délit d'opinion. Si vous n'êtes pas d'accord avec Elon Musk, vous ne pouvez pas entrer sur le territoire américain, qu'on ne nous parle plus de liberté d'expression.
Vous dites que les censeurs ne sont pas ceux que dénoncent les États-Unis ?
Écoutez, à l'évidence, personne n'est empêché, quand il est un passeport américain, de venir en Europe. En revanche, un ancien commissaire européen, je dis bien un ancien commissaire européen, qui n'a fait que préparer à l'époque, avec les plateformes, avec les réseaux sociaux, une loi que nous, députés européens, avons votée, 90% de l'hémicycle, ce qui est rarissime, oui. Un ancien commissaire européen ne pourrait plus se rendre aux États-Unis parce qu'il a contrarié Elon Musk. C'est absurde.
Nathalie Loiseau, est-ce que vous craignez que je reviens un peu à ma première question, mais que le dialogue se rompe entre Bruxelles et Washington ?
Oh, il ne se rompra pas, mais ce que je vous craindrais, c'est que Bruxelles plie. Et j'espère que la Commission européenne a compris que faire des amabilités à Donald Trump, ça marche moins bien que de montrer de la fermeté. Vous avez vu l'administration américaine...
Comment on montre de la fermeté
En appliquant nos règles, en ne se laissant pas intimider. Il y a plusieurs enquêtes qui touchent les plateformes, notamment X, pour savoir, et votre journaliste l'a très bien dit, si l'algorithme de X a été manipulé pendant la campagne électorale allemande. La question n'est pas de savoir si Elon Musk aime l'extrême droite. Tout le monde sait que c'est le cas. La question est de savoir s'il manipule l'algorithme de sa plateforme pour favoriser un parti politique par rapport à d'autres dans une campagne électorale, ce qui serait une ingérence inacceptable. Des enquêtes ont été lancées par la Commission européenne. Nous, parlementaires européens, nous demandons les résultats de ces enquêtes. S'il y a eu manipulation, il doit y avoir sanction.
Merci Nathalie Loiseau d'avoir été l'invitée de France Inter ce midi. Je rappelle que vous êtes eurodéputée Renew, groupe centriste au Parlement européen. J'évoquais la réaction d'Emmanuel Macron qui parle donc d'intimidation. Il y a aussi celle de la Commission européenne que Thierry Breton a quittée il y a un an. Elle dit condamner fermement ces sanctions et demande des clarifications aux autorités américaines. Si nécessaire, nous répondrons rapidement et de manière décisive, écrit Bruxelles dans un communiqué. Quand en Russie, le pouvoir poursuit sur le chemin vers l'interdiction de WhatsApp, messagerie très populaire dans le monde entier, qui appartient justement à Meta, maison mère américaine de Facebook ou Instagram, les autorités affirment que WhatsApp permet à des terroristes, à des fraudeurs d'opérer en Russie. Les appels via l'application sont d'ores et déjà interdits. Et le Kremlin essaye maintenant d'inciter les Russes à utiliser une autre messagerie locale, celle-ci, est donc beaucoup plus facile à surveiller. France Inter à Moscou, Sylvain Tronchet.
Le gendarme russe de l'Internet et des communications, Roskomnadzor, l'a reconnu. Il prend actuellement des mesures progressives de restriction visant WhatsApp. Les appels vocaux sur la messagerie étaient déjà bloqués depuis cet été. Mais maintenant, ce sont les messages qui passent de plus en plus mal. Le média économique russe RBK indiquait lundi que la vitesse de fonctionnement de WhatsApp avait chuté de 70 à 80% en Russie. Dans un communiqué, les dirigeants américains de WhatsApp ont dénoncé ces attaques contre leur service, expliquant que contraindre les gens à utiliser des applications moins sécurisées et imposées par le gouvernement russe ne pouvaient que nuire à la sécurité de la population russe. WhatsApp fait référence à Max, la nouvelle messagerie russe que le pouvoir promeut à grand renfort de publicité. Max n'est pas cryptée de bout en bout et de nombreux opposants dénoncent le fait qu'elle soit totalement transparente pour les services de sécurité. Mais les Russes n'auront probablement pas le choix très prochainement, sauf à utiliser des VPN pour contourner les blocages. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Moscou, deux policiers sont morts cette nuit dans une explosion dans une rue voisine de celle où un général de l'état-major russe est mort dans les mêmes circonstances lundi. D'après les autorités, un engin explosif a été mis en marche au moment où les policiers se sont approchés d'une personne qui se trouvait à proximité de leur véhicule. Alors, ce qui ressemble à des assassinats ciblés n'ont pas été revendiqués. Pour l'instant, depuis le début de la guerre en Ukraine, il y en a eu plusieurs. Kiev a parfois reconnu en être à l'origine. L'Ukraine, où Volodymyr Zelensky a annoncé ce matin avoir obtenu des États-Unis une révision du plan de paix avec la Russie, plan de paix proposé par Donald Trump. Le président ukrainien assure qu'il prévoit désormais un gel de la ligne de front et qu'il met de côté la question des territoires centrales pour Moscou. À Kharkiv, en Ukraine, les précisions d'Emmanuel Chaz.
Ce document est salué par Volodymyr Zelensky comme un progrès significatif. Si cet accord de paix était accepté par Moscou, l'Ukraine bénéficierait d'un cessez-le-feu immédiat et de garanties de sécurité offertes par les États-Unis et par les Européens alliés de Kiev sous forme de réponses militaires jointes et de sanctions envers Moscou en cas de nouvelle agression russe, sur terre, sur mer ou dans les airs, à condition que l'Ukraine n'attaque pas elle-même la Russie et qu'elle limite son armée à 800 000 soldats. De son côté, Kiev accepterait la création future d'une zone démilitarisée à l'est du pays, mais à condition qu'elle soit discutée à partir de la ligne de front actuelle. Ce document, qui pourrait être présenté dès aujourd'hui à Moscou par les États-Unis, présente une inconnue majeure, la réponse du Kremlin, alors que la Russie réclame toujours la cession de l'ensemble du Donbass, dont les villes forteresses de Kramatorsk et de Sloviansk. Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI pour France Inter.
Et interrogé à propos de ce plan, hein, ce matin, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que Moscou était en train, je cite, « de formuler sa position ». L'actualité à l'étranger, c'est aussi l'Algérie, où le Parlement doit se prononcer aujourd'hui sur une proposition de loi qui vise à qualifier la colonisation française dans le pays de crime d'État et à demander à la France des excuses officielles. L'Algérie, dominée par la France pendant plus de 130 ans jusqu'à l'indépendance de 1962. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Ce texte montre quoi en fait? Que les relations entre Paris et Alger sont toujours tendues alors qu'on a cru un début de réchauffement?
Écoutez, cette initiative du Parlement algérien, avant tout symbolique, est un nouveau signe du climat orageux entre les deux pays. Il montre que la libération de l'écrivain Boualem Sansal n'aura été qu'une brève éclaircie dans une relation bilatérale glaciale. Le texte de loi demande à la France, je cite, « une indemnisation complète et équitable pour tous les dommages matériels et moraux engendrés par la colonisation française ». Les députés algériens exigent la décontamination des sites des essais nucléaires effectués par Paris dans les années 60 dans le Sahara. Ils réclament également le retour des archives couvrant la période de la colonisation qui ont été rapatriés en France au moment de l'indépendance de l'Algérie. Pour le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bougali, c'est un message clair selon lequel la mémoire nationale algérienne n'est ni effaçable ni négociable. À Paris, le porte-parole du Quai d'Orsay indique ne pas vouloir faire de commentaires sur un débat politique interne à un pays étranger. Une façon aussi de ne pas mettre de l'huile sur le feu, notamment parce que le journaliste Christophe Glaise reste toujours détenu en Algérie.
Christian Chesneau, merci. Rédaction International de France Inter.
France Inter, le 13-14. Kevin Dufraisse.
Vers un réveillon sans électricité pour des milliers d'habitants de l'Aveyron, plus de 5000 foyers toujours privés d'électricité d'après Enedis en raison des chutes de neige, plus de 1000 foyers concernés aussi dans l'Hérault, touché par des inondations mais qui n'est plus en vigilance rouge pour crue aujourd'hui. La neige est attendue sur une partie du pays. Elena Morna va y revenir dans sa météo juste après ce journal. Il faudra être prudent sur la route alors que Bison Futé a classé la journée orange hein, partout dans le sens des départs. Rouge en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Un Noël très froid, prédit Météo France, ce qui devient presque anormal sous l'effet du réchauffement climatique qui fait monter la température et acidifie les océans. On le sait, et tout ça ravage des coraux. Nouvelle étude diffusée ce matin par la préfecture de Guadeloupe, précisément sur les coraux durs des Caraïbes. Leur couverture a baissé de près de moitié depuis 1980. Sur Terre, en revanche, voilà qui peut être une solution pour nourrir les bêtes face aux effets du réchauffement climatique. Limiter la monoculture dans les prairies. C'est ce que recommande une étude qui vient d'être publiée dans la revue Science. Elle rend compte d'une expérimentation d'une ampleur inédite, hein, 26 sites dans le monde. Les chercheurs y ont testé des mélanges de semis. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Et le résultat, c'est que très souvent, eh bien, ces mélanges, ils sont plus efficaces que les engrais.
Oui, et pour le prouver, les chercheurs ont mené cette même expérimentation donc sur 26 sites. Vous le disiez, partout dans le monde, à chaque fois, on quadrille un terrain agricole, 60 parcelles, autant de combinaisons. On y sème soit une seule espèce fourragère, soit un mélange de trois catégories, graminées, légumineuses, herbacées. Pour les bêtes, cette variété de l'alimentation augmente avec davantage de protéines. Et l'étude prouve à une large échelle une hausse des rendements, détaille Guy Lingrange, agronome, co-auteur de l'étude pour le Trinity College de Dublin en Irlande.
Ça marche en Suisse, c'est prouvé depuis un moment. C'est très bien si ça marche en Irlande, c'est prouvé depuis un moment. Et là, l'idée, c'est de rassembler des chercheurs, chercheuses de différents continents, parce qu'il y en a en Asie, en Océanie, en Europe et aux États-Unis et au Canada.
Alors certaines combinaisons sont plus efficaces et plus le climat se réchauffe, plus cette diversification fonctionne dans tous les cas. Elle permet de limiter l'apport d'engrais azotés qu'on utilise en monoculture.
De manière générale, c'est ça, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'on peut conclure que sur différents continents, on peut compenser un apport en engrais par de la diversité de plantes. Quand on sait que les engrais azotés notamment sont produits à partir de gaz naturel, si on arrive à produire des semences de différentes espèces et à les combiner intelligemment, on n'a plus besoin de cette énergie fossile pour maintenir des rendements agricoles.
Et l'étude fournit même la recette en quelque sorte, Kevin. 30 à 70% de légumineuses, au moins 15% de graminées et au moins 10% d'herbes, plus efficaces donc que la monoculture.
Tout ça est bien noté. Merci Rémi Brancato. Une belle image fait le tour des réseaux sociaux depuis ce matin, venue du Maroc et de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Hier soir à Rabat, la Tunisie affrontait l'Ouganda. Il y avait des trombes d'eau avant le coup d'envoi. Alors les joueurs tunisiens ont retiré leur veste pour protéger les enfants qui les accompagnaient de leur entrée sur le terrain. La Tunisie l'a emporté 3-1. Aujourd'hui, entrée en lice du tenant du titre, la Côte d'Ivoire, à 18h30 face au Mozambique. Avant ça, l'Algérie joue son premier match face au Soudan. Jean-Pierre Blimaud est toujours avec nous, avec peut-être un Zidane donc pour garder les buts de l'Algérie, Lucas Zidane. Et oui, c'est bien le fils de notre Zinedine.
Oui, c'est le deuxième des quatre fils de l'ancien numéro 10 des Bleus. Il a joué pour les équipes de France dans les jeunes catégories, mais comme il n'a jamais disputé de match avec les A et que sa nationalité sportive est désormais algérienne, il a honoré en octobre sa première et à ce jour unique sélection avec l'Algérie. D'abord pressenti comme doublure dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il profite aujourd'hui de la blessure d'Alexis Guendouz. C'est celui qui est régulièrement titulaire depuis 2 ans, mais qui a déclaré forfait pour la CAN. Alors hier, en conférence de presse, Vladimir Petkovic, qui est le sélectionneur des Fenech, a préféré réserver la primeur de sa décision à ses joueurs. Est-ce qu'il va titulariser Lucas Zidane ou non? On le saura dans les heures qui suivent. Mais sans attendre, Riyad Mahrez, le capitaine et la grande star de l'équipe, a parlé de l'intégration de Lucas Zidane.
Comme tous les joueurs, il s'est bien intégré, on l'a bien intégré. Il se prend pas la tête, il essaie de se donner à fond pour l'équipe. Et c'est vrai que son nom, il est lourd à porter, mais bon. Il se prend pas la tête et il est bien intégré avec nous et il est content.
Alors à 27 ans, avec une seule sélection, c'est une bonne occasion pour Lucas Zidane de s'installer, pourquoi pas, dans les buts de cette sélection algérienne. D'ailleurs, il présente des garanties. C'est le gardien principal du FC Grenade en deuxième division espagnole. Et en face de lui, eh bien, il y a des concurrents comme Anthony Mandrea, gardien de Caen, actuellement en troisième division française, Oussama Benbot, gardien de l'USM Alger.
Jean-Pierre Blimaud est réponse donc pour Lucas Zidane ou pas dans les buts de l'Algérie à 16h pour ce match face au Soudan. Lui a marqué 12 petits points, mais il a participé une fois de plus au succès de son équipe cette nuit. Victor Wembanyama et ses Spurs, vainqueurs du champion NBA en titre, le Thunder d'Oklahoma City, c'est du basket bien sûr. À la trêve, San Antonio est deuxième du classement de la Conférence Ouest. Le cinéma maintenant.
Hubert Bonisseur de la Batte.
Il s'appelle juste Leblanc.
Marcello.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul.
Mais qui est Kaiser Soze?
Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Kevin.
On commence Alexis aujourd'hui pour ses sorties du mercredi avec un drame historique, L'Englouti.
Oui, L'Englouti du titre, c'est Aimé, une jeune institutrice interprétée par Galatea Bellougi qui prend son poste à l'hiver 1899 dans un hameau des Hautes-Alpes.
Vous allez écrire la première lettre de l'alphabet.
Premier long métrage de la jeune réalisatrice Louise Aymon, L'Englouti est à mi-chemin entre la chronique sociale et le film de genre, tant les montagnes enneigées où l'action se concentre regorgent de mystères et de croyances occultes. Même s'il est parfois un peu confus, le scénario parvient à nous attraper, évoquant aussi bien l'analphabétisme que la naissance du désir. Le soin avec lequel Louise Aymon compose ses plans, comme lors des nombreuses scènes nocturnes éclairées uniquement à la bougie, achève de rendre l'ensemble ensorcelant.
Vous nous recommandez aussi, Alexis, une fresque rurale chinoise, ça s'appelle « Le temps des moissons ».
Magnifique film que celui de Huo Meng, ce jeune réalisateur qui raconte ici son enfance dans les années 90, lorsqu'il fut témoin de la fin de l'agriculture collectiviste en Chine, après une réforme agraire encourageant l'industrialisation du travail de la terre. Ours d'argent lors de la dernière Berlinale, Le temps des moissons suit les destinées des membres d'une même famille, enfants, parents, grands-parents. Confronté à une soudaine évolution d'un mode de vie ancestral, le cinéaste Romeng multiplie les séquences virtuoses avec un sens du cadre remarquable, mais le propos de son film, jugé trop politique, déplaît aux autorités chinoises, qui ne l'ont pour le moment pas autorisé à sortir en salle.
Un autre coup de cœur, Alexis, pour une enfance allemande.
Les derniers jours du nazisme, vécus à hauteur d'enfant sur la magnifique île d'Amrum, tout au nord de l'Allemagne. Voilà ce que nous propose le surprenant réalisateur Fatih Akin, plus sobre dans sa mise en scène qu'à son habitude. Il faut dire que Fatih Akin reprend ici le projet de son vieil ami Arc Baum, très malade et qui s'est éteint le mois dernier à 86 ans. Une enfance allemande retrace justement les souvenirs de guerre de ce grand artiste et c'est particulièrement poignant.
Et pour terminer, Alexis, le traditionnel tour d'horizon des autres sorties de la semaine.
Oui, nous avons aussi ce mercredi le film d'animation Bob l'éponge, un pour tous, tous pirates, avec un Bob l'éponge qui va mouiller le maillot, le maître du kabuki, un drame japonais dont le héros est le fils d'un yakuza qui devient une star du théâtre. Et enfin, le polar La femme de ménage, adaptation avec Sydney Sweeney, du best-seller de Freda McFadden.
Et grosse sortie de ce mercredi, en effet, on vous en parlait dès ce matin sur France Inter, on verra si le film a le même succès que le livre. Merci Alexis Demeyer. Avant de retourner au cinéma avec Zootopie 2, parlons d'une tradition de Noël pour beaucoup de croyants, ou pour certains curieux aussi d'ailleurs. La messe de minuit, la plupart du temps, elle n'est plus spécifiquement à minuit, il faut bien le dire, hein, puisque les prêtres manquent, alors certains vont en célébrer plusieurs à différents endroits. Ce soir, c'est le cas du père Pascal Tindao, originaire du Burkina Faso. Il est prêtre à Montmirail dans la Marne, et Béatrice Duguet l'a rencontré.
Croix de bois toute simple autour du cou, le curé de 61 ans sait déjà comment il entamera son homélie de ce soir de Noël.
Je commencerai par exemple, en disant « Un enfant nous est né, un sauveur nous a été donné ». C'est une phrase même du prophète Isaïe. Voilà.
Dans sa paroisse, 34 communes, donc 34 églises, impossible de se démultiplier. Pascal Tindao s'organise avec les prêtres des 5 autres paroisses de la Marne.
Vous voyez ici le programme, on voit bien que le 24...
Planning voilà. Coloré à l'appui pour ces 24 et 25 décembre.
PTC, Pascal Tindao. Je suis à Montmirail, le lendemain 25... Je suis à Courgeonnet.
Le moment promet en tout cas d'être plus chaleureux que celui de son arrivée dans l'Hexagone.
Dès que vous connaissez l'Afrique, on est très spontané, on est très relation. Alors quand on arrive ici, je trouve que c'est un peu froid. C'est...
Au sens propre, voilà. Au sens figuré.
Oui, tout à fait, oui, je crois aussi.
Le père Tindao est vite adopté quand même. Sa première messe de Noël, il ne l'oubliera jamais. Jeune prêtre alors à Fadan Gourma, au Burkina.
Voilà, c'était avec la ferveur. Ah là, tu es vivant. C'était vivant. On sent la foi des gens. Voilà. Ça te soulève, quoi.
Ici aussi, il y a de la ferveur, dit-il, qu'il partage avec les autres prêtres du diocèse.
Nous, les prêtres, on s'est dit, mais tiens, comment ça a été chez toi? On dit, ah oui, il y a eu du monde. Et le lendemain, quoi, il y a eu du monde. Si. On partage et puis c'est la joie, quoi.
Car Noël est une fête de joie. Conclut-il.
Un portrait signé Béatrice Duguet. Presque un tiers des religieux catholiques en France sont des missionnaires venus de l'étranger. 13h28 sur France Inter. Dans une minute, la météo de Noël fraîche, on l'a dit, d'Elena Morna. Puis nous partons pour Zootopie. Vous avez peut-être emmené vos enfants, vos petits-enfants, voir le nouveau film d'animation de Disney. Zootopie, cette ville où les animaux ressemblent tellement à des humains. Mais avec nos invités, on va plutôt regarder ce que ça dit de la faune, des comportements des animaux, des réalités de la nature ou pas. La coopération, l'amitié dans le règne animal. 01 45 24 7000 pour vos questions. Ou l'application Radio France, rubrique Réagir. À 13h50, c'est la France. Éric Fotorino, bonjour.
Bonjour.
Du 1 Hebdo, Éric, alors que les klaxons vont résonner et qu'on va parler fort en famille ou entre amis jusqu'à la Saint-Sylvestre, vous nous parlez du silence.
Oui, Kevin, un bien rare et pourtant nécessaire à notre équilibre. Ne dit-on pas que le silence est d'or, mais cet or est un métal aussi précieux que devenu très rare dans nos sociétés bruyantes à l'excès.
Eh ben, on va essayer de profiter du silence à la radio, c'est pas forcément facile, mais à tout à l'heure, Eric. Enfin, Frédéric Pommier est avec le juge Éric Alphen. Semaine spéciale Charles Aznavour, celui qui est aussi romancier, a choisi l'inévitable Emmenez-moi.
Il a surtout compté dans mon enfance parce que ma mère chantonnait tout le temps la misère serait moins pénible au soleil. Tout le temps. Avant même de connaître Aznavour, avant même de voir le disque, parce qu'à l'époque j'avais 7 ans, je connaissais ce refrain, si je puis dire, que ma mère chantonnait.
Rendez-vous juste avant 14h.
En France, 73% des sols cultivés ne sont pas en bonne santé.
Heureusement, des agricultrices et agriculteurs inventent de nouvelles pratiques pour les préserver sur des fermes qui nous nourrissent et leur permettent de vivre de leur métier. Ces fermes agroécologiques existent déjà dans nos territoires et près de chez vous. Elles représentent l'agriculture de demain. Elles sont les fermes d'avenir et nous les accompagnons au quotidien. Rejoignez le mouvement sur fermedavenir.org.
Le Crédit Mutuel, partenaire de toutes les musiques, donne le la à l'émission Prodige sur France 2 et France.tv. Place à la seconde soirée avec 12 nouveaux candidats qui jouent leur place pour la grande finale. Chants, danse, instruments, accompagnés par l'orchestre Divertimento, ils vont vous éblouir et vous émouvoir. Prodige, présenté par Faustine Bollard, c'est demain 21h05 sur France 2 et France.tv avec le Crédit Mutuel.
À 13h30, le temps de cette veille de Noël.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Elena Morna.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
La visite du Père Noël s'annonce ensoleillée pour certains et sous la neige, on l'a dit, pour d'autres.
Et froide pour tout le monde, vous l'avez remarqué. Voilà. Sensation de froid accentuée par le vent. Alors je vous parle des températures ressenties pour cet après-midi. Moins 5 à Nancy, Beauvais et Évreux. Moins 4 à Strasbourg et Limoges. 0 pour Paris et Blois. 1 degré à Brest et Toulouse. Concernant le ciel, on commence par le soleil qui s'impose progressivement sur le nord-ouest. Retour des éclaircies après la pluie entre les Pyrénées orientales, le Tarn, le Golfe du Lion et le Var. Attention, la décrue de l'Hérault est lente, on est toujours en vigilance orange crue. Entre ces deux zones de ciel bleu, c'est gris, localement pluvieux sur le sud-ouest et la Corse, de la neige à basse altitude sur le massif central et les reliefs de l'Est.
Neige qui va blanchir les plaines cette nuit.
On attend 5 à 10 cm de neige en basse vallée du Rhône d'ici demain matin. L'Ardèche et la Drôme, traversées par l'autoroute A7, sont en vigilance orange neige-verglas. Neige qui gagnera ensuite le centre, le Val-de-Loire, la Normandie et la Bretagne. Dans tous ces secteurs, la féerie d'un Noël troublant réjouira certains, mais attention sur les routes.
Eh oui, attention sur les routes. Merci beaucoup Elena Morna pour ses prévisions météo.
France Inter. Le 13-14. Kevin Dufraîche.
Déjà plus de 5 millions de spectateurs dans une année un peu faible pour la fréquentation du cinéma en France. Zootopie 2, film d'animation de Disney, fait un carton, par ailleurs dans le monde entier, comme le premier épisode. Zootopie est un film d'aventure qui raconte aussi la vie d'une grande ville moderne, ses dynamiques, les questionnements de la société, la tolérance, la solidarité, les discriminations. Sauf que tous les personnages sont des animaux. Alors au-delà du succès de la fable, on a voulu voir ce film et l'analyser avec deux éthologues, deux spécialistes des comportements des animaux. Charlotte Cantelou, bonjour.
Bonjour.
Vous étudiez, vous, les primates en particulier. Vous êtes chargée de recherche au CNRS à l'Université de Strasbourg. En duplex de Nîmes, Jessica Serra, bonjour.
Bonjour Kevin.
Docteur en éthologie, vous aussi autrice de plusieurs ouvrages et directrice de la collection Mondes Animaux pour les éditions Humaine Science.
Dans la police, le partenariat est la pierre angulaire du succès.
Non, non, la carotte !
Fabuleux !
Vous voulez arrêter les méchants ?
Aïe ! Arrête de me tirer les oreilles, tire pas les oreilles d'un lapin !
Soyez sur la même longueur d'onde.
Trifouille-le, trifouille-le ! Allons-y !
J'y suis presque.
C'est les poulets ! Come on, get on up.
Voilà, petit extrait de ce Zootopie 2 sorti il y a un mois déjà et qui fait toujours le plein, je le disais. C'est le traditionnel Disney de fin d'année avec sa chanson aussi. Cette fois, c'est Shakira qui reste bien en tête. Vous l'avez vu toutes les deux, ce film. Qu'en avez-vous pensé déjà, Charlotte Cantelou, un petit mot pour commencer?
Bah moi, j'ai trouvé que c'était assez divertissant. Après, je suis pas sûre qu'on apprenne grand-chose sur les animaux parce que je trouve que ça dépeint beaucoup la société humaine plus que les sociétés animales, en réalité.
On va faire un petit pas de côté. Jessica Serra.
Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que c'est une extraordinaire métaphore, justement, pour mieux penser le vivant, mieux penser les animaux et mieux penser nos sociétés également.
Deux avis différents, donc. Et c'est pour ça que notre discussion va être intéressante. Le succès, je le disais, est énorme pour ce film. 5 millions d'entrées déjà et ça continue. Avant qu'on parle des animaux, de leur comportement, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on aime tellement les dessins animés, les films d'animation qui mettent en scène des animaux, notamment les enfants apprécient beaucoup ça. Jessica Serra, ça vient d'où, à votre avis, cet attrait pour les animaux au cinéma ?
On a un attrait spontané envers tous les personnages qui ont des caractéristiques infantiles, en fait. Et donc, on anthropomorphise souvent à l'extrême les animaux, c'est-à-dire que, et là je rejoins totalement Charlotte, les animaux, on les représente sous des formes humaines, avec des tempéraments humains, dans des sociétés qui ressemblent à des sociétés humaines. Mais ça dit beaucoup, finalement, de notre relation avec eux. Et ça interroge aussi sur le fait qu'on puisse, d'un côté, les anthropomorphiser comme ça, et de l'autre, oublier beaucoup d'entre eux.
Parce que dans Zootopie, évidemment, les animaux, ils sont habillés, ils marchent tous sur deux pattes. Charlotte Cantelou, pourquoi on aime tant les films avec des animaux, les dessins animés avec des animaux?
Je pense peut-être que ça nous renvoie aussi à notre enfance. Quand tout petit, on baigne dans les histoires avec des animaux, des contes, des dessins animés, etc. Et on a tous des souvenirs comme ça qui nous font aimer, je pense, les animaux quand on est enfant. Tout démarre quand on est enfant, quoi.
Alors, Zootopie 2, c'est avant tout une histoire d'amitié entre un lapin et un renard qui coopèrent ensemble. On l'a entendu, ils sont tous les deux policiers, ils forment un tandem. On imagine que, en l'état, dans la nature, c'est assez impossible un lapin et un renard qui s'entendent. Mais est-ce que, Charlotte Cantelou, ça existe, la coopération entre différentes espèces dans la nature?
Oui, bien sûr, la coopération, c'est très répandu en fait dans le règne animal. On l'observe, il y a des exemples chez des insectes par exemple, c'est que des fourmis vont coopérer avec des champignons ou des bactéries, elles vont même les élever d'une certaine manière. Il y a d'autres exemples, par exemple les Bernard l'ermite qui vont coopérer avec des anémones de mer qui vont se poser sur leurs coquilles et qui, elles, vont récupérer des miettes de nourriture, etc. Et puis ça va jusqu'à, par exemple, la chasse coopérative chez les lions ou chez les chimpanzés. Donc il y a des exemples un peu partout dans le règne animal, chez toutes les espèces.
Ouais. Jessica Serra, vous aussi, vous avez peut-être d'autres exemples de coopération entre différentes espèces?
Oui, il en existe énormément, mais ce que je tiens surtout à rappeler, c'est qu'au-delà du mythe de la loi du plus fort, on a souvent tendance à penser la nature comme finalement gagnant la relation. Finalement, il faudrait être le plus fort pour gagner.
Bien sûr, et on pense à la chaîne alimentaire, il y a toujours un qui mange l'autre.
Mais la coopération, c'est réellement, on l'oublie, une force motrice aussi de l'évolution. Et donc, on la retrouve dans de très nombreux groupes animaux, les loups, les dauphins, les fourmis, les abeilles, les éléphants. Et sans coopération, pas de groupe, pas de survie. Et ça, on l'oublie aussi. Et moi, je pense à cette coopération absolument incroyable. Un exemple que je donne dans un de mes livres Animaux énigmatiques, entre le mérou et la murène, qui ont appris à coopérer, à chasser ensemble, qui sont deux prédateurs.
D'accord.
Et le mérou est capable de repérer les proies à distance, donc il signale leur présence à la murène en effectuant des hochements de tête. Et la murène, elle est experte pour se faufiler dans les crevasses, et donc chacun exploite les compétences de l'autre et chacun mange davantage que s'il chassait seul.
Un vrai travail d'équipe. Donc ça existe aussi au sein d'une seule et même espèce. Et je voudrais qu'on salue Alain au téléphone. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Vous vouliez nous parler d'une scène à laquelle vous avez assisté. Racontez-nous.
Oui, écoutez, c'était il y a quelques années. Je marchais en Camargue et pas très haut au-dessus de ma tête, j'ai vu passer un vol de flamants roses.
Ouais.
Et le dernier de la file, donc il vole en file, avait les flamants roses volent avec les pattes à l'équerre dans le fil du vent, dans le fil du vent, donc horizontal. Et le dernier avait la patte à l'équerre. Et à un moment donné, c'est l'avant-dernier qui s'est détaché du groupe, s'est mis sur le côté, a fait l'effort pour aller prendre le relais. Et le dernier, donc un peu handicapé, a rejoint, s'est recollé au groupe. Et donc j'avais trouvé assez belle ce changement d'organisation, si on peut dire, qui avait été décidé par ce groupe de flamants roses pour intégrer ce flamant rose boiteux, quoi, si on peut dire.
Et vous avez réussi à assister tout ça, observer tout ça.
Oui, oui, ça s'est passé en l'espace de peut-être une vingtaine de secondes, si vous voulez. C'est l'avant-dernier qui a pris le relais, et le dernier avait sa petite place en queue de peloton pour pouvoir suivre la migration sans fournir trop d'efforts compte tenu de sa patte blessée probablement.
Merci beaucoup Alain pour ce témoignage. Charlotte Cantelou, une scène assez formidable quand on y assiste, j'imagine. Ça, pour le coup, l'entraide au sein d'une même espèce, on imagine évidemment que c'est beaucoup plus courant. Mais ce que raconte Alain, c'est assez formidable.
Oui, tout à fait. C'est une belle observation qu'il a fait. Les animaux, en tout cas, qui vivent comme ça en groupes sociaux, ont vraiment cet intérêt à rester ensemble parce que voilà, plus on est nombreux, enfin, plus on est avec ses congénères, plus on est fort et moins on a de risques de se faire attaquer, etc. Et il y a d'autres exemples aussi qui sont donnés, hein, qui ont été observés, effectivement, d'animaux qui sont un peu malades ou qui sont ralentis, ou dans les troupeaux d'éléphants, par exemple, des petits qui vont avoir un peu du mal à suivre. Et donc, les adultes qui vont les attendre, qui vont ralentir le pas, etc.
Comme le disait Jessica Serra, là, c'est pas forcément la loi du plus fort. On va aussi aider celui qui est un peu plus faible,
oui,
en tout cas,
tout à fait.
Moment-là.
Exactement, ouais. Après, c'est dans une certaine mesure, évidemment. Si après ça met tout le groupe en danger, il y a un moment, effectivement, ils vont peut-être prendre la décision de l'abandonner. Ça, c'est des choses qu'on observe aussi. Ouais.
Zootopie, je le disais, il y a beaucoup d'histoires d'entraide entre espèces, mais il y a aussi de l'amitié. Jessica Serra, est-ce que ça existe, l'amitié entre animaux ?
Alors c'est vrai qu'en éthologie, on n'ose pas trop utiliser des termes justement très humains, oui, comme l'amitié, et pour autant, ce qu'on voit, ce qu'on peut observer dans tous les groupes sociaux, c'est qu'il y a des liens très forts qui peuvent se tisser entre individus de la même espèce notamment, et moi j'ose parler d'amitié aujourd'hui parce que ce qu'on voit, c'est quand on sépare notamment deux individus très liés, et je pense aux individus d'élevage, donc à toutes les bêtes d'élevage, oui, etc., c'est très compliqué, il y a des processus d'attachement très similaires entre animaux, qu'on retrouve chez l'humain en fait. Hein, ce sont les mêmes molécules d'attachement qui jouent d'un point de vue physiologique dans ces processus-là. Mmh. Et donc moi, effectivement, j'ose parler d'amitié, mais c'est un terme, encore une fois, assez qu'on octroie surtout pour les humains.
Charlotte Canteloup, vous l'observez, vous aussi, ça chez les primates qui sont votre spécialité, il y a de l'amitié, des relations qui sont au-delà de la reproduction de l'espèce et de...
Oui, tout à fait. Et en fait, ce terme d'amitié, là, friendship en anglais, c'est un terme qui est utilisé par les primatologues sans trop de difficultés, justement, peut-être parce que c'est les primates, nos cousins les plus proches, donc on se permet plus d'utiliser ça, mais moi c'est pas non plus un terme qui me choque pour les animaux, parce que effectivement, comme Jessica le disait, ce sont les mêmes bases de l'attachement qui existent chez de nombreuses espèces, et effectivement, on observe beaucoup les primates ont des interactions privilégiées avec certains individus de leur groupe, où on va vraiment voir des amis, quoi, des individus qui sont plus amis avec d'autres dans leur groupe et donc qui vont passer plus de temps ensemble, qui vont se toiletter socialement beaucoup plus souvent, qui vont former des coalitions, etc. Donc ça, c'est vraiment, on observe ça, ouais.
Bon, alors maintenant, ça va être un petit peu moins fun, mais on va parler de cet aspect-là aussi. Je vais divulgâcher, comme disent les Québécois, un petit peu le film, attention. Mais dans Zootopie, il y a les lynx qui sont l'espèce qui veut chasser les autres de leur territoire, qui veulent agrandir leur territoire. Est-ce qu'il y a des espèces qui agissent comme ça dans la nature, Jessica Serra ? Est-ce qu'il y a des espèces qui veulent en exterminer d'autres ?
Bien sûr, ça existe. Il y a des espèces d'abord territoriales. Il y en a d'autres qui, notamment, je pense aux fourmis, dès qu'elles croisent une autre colonie, vont effectivement tenter de les exterminer ou les utiliser parfois comme esclaves. Donc, on peut trouver toutes sortes de choses dans la nature. Encore une fois, on a souvent tendance à regarder la nature en essayant de trouver des exemples dans la nature à suivre. Mais dans la nature, on trouve tout et son contraire. Donc, on va trouver effectivement de l'altruisme, des amitiés fortes, mais on va trouver aussi des choses absolument abominables. On va retrouver aussi des phénomènes de guerre. Donc voilà, la nature ne doit pas servir d'exemplarité pour les humains. Et je pense que là encore, ce film est une belle métaphore à cela. On peut trouver des exemples dans la nature, mais est-ce qu'on doit les suivre ?
Charlotte Canteloup, est-ce que quand même cet aspect-là n'est pas, j'allais dire typiquement ou plus souvent humain de vouloir agrandir son territoire et de prendre la place des autres espèces ?
Oui, tout à fait. En fait, moi je suis... pas tout à fait d'accord sur ce point-là, dans le sens où, effectivement, les animaux se battent pour les territoires, pour les ressources, ils sont en compétition, etc. Mais je crois que le fait de vouloir exterminer une autre espèce, c'est typiquement humain. Le fait de le faire intentionnellement, hein, puisque là, dans le film, c'est vraiment, ces lynx ont vraiment l'intention d'éradiquer tous les reptiles, etc. Donc, c'est vraiment intentionnel pour des raisons politiques, etc. Il n'y a pas ça chez les animaux.
Non, ça
les
coup,
animaux c'est... n'auront jamais l'intention vraiment de, d'éradiquer une autre espèce ou de vouloir faire le mal comme ça. Ça, on n'observe pas ça.
Vous parlez justement des reptiles. Dans le film, celui qu'on présente à la base comme le méchant, c'est le serpent, qui est en fait sans doute le plus gentil de l'histoire. Est-ce que dans la nature, les prédateurs aussi ne sont pas forcément ceux qu'on croit, et les animaux les plus méchants ne sont pas forcément ceux qu'on croit ? Méchant, c'est pas le bon terme. Dangereux, peut-être.
Oui, voilà, parce que je dirais pas qu'il y ait des méchants ou des gentils chez les animaux, mais il y a plutôt un équilibre, en fait, qui se fait entre les proies, les prédateurs, etc. Non, il y a des espèces qui sont... Enfin, chaque espèce, en fait, a son rôle à jouer dans la nature n'a pas plus d'intérêt qu'une autre, d'une certaine manière.
Jessica, vous vouliez rebondir.
Oui, je rejoins Charlotte sur le fait qu'il n'y a certainement pas de conscientisation du mal chez l'animal. Il y a d'ailleurs la notion du bien et du mal, elle est très relative, y compris chez les humains. mais on le voit quand même, à travers toutes les observations éthologiques, il y a des groupes qui, effectivement, vont s'attaquer systématiquement à d'autres groupes. Il y a cette volonté d'acquérir parfois des nouveaux territoires, etc. Je voulais juste rebondir sur le propos qui a été dit juste auparavant.
Un petit mot pour finir peut-être du message aussi sur... C'est pas vraiment, j'allais dire, on peut pas vraiment parler de film écolo non plus parce que c'est pas le propos du film, mais il y a quand même cette idée de symbiose, que chaque espèce puisse vivre dans son environnement, etc. Charlotte Canclou, est-ce que vous avez vous aussi vu ce message dans ce film un petit peu subliminal, certes, mais il y est tout de même.
Oui, tout à fait. Puis bon, ça se finit quand même bien. À la fin, le bien règne sur le mal, donc c'est quand même pas mal.
On reste chez Disney.
Tout à fait. Oui, moi je pense que...
La ville, je précise, Zootopie est construite en différents quartiers qui sont protégés. Donc il y a la toundra glaciale, il y a la jungle tropicale, pour que chacun puisse vivre dans la même ville.
Tout à fait. Mais il y a beaucoup d'espèces en fait qui cohabitent, qui partagent les mêmes milieux sans aucun problème. En fait, souvent le problème il vient de l'espèce humaine qui dérègle tout ça, quoi. Je pense que s'il n'y avait pas les humains, la planète probablement s'en porterait mieux, et les animaux aussi. Je pense que ça, il y a plein d'espèces qui cohabitent très bien aujourd'hui et qui s'en sortent très bien sans l'espèce humaine.
Jessica Serra, une toute dernière question. Le film fonctionne dans le monde entier, je le disais, y compris en Chine, où certaines salles permettent de venir voir le film avec son chien. Ça existe de plus en plus en France, ça, les séances de cinéma dans lesquelles on peut emmener son chien. Est-ce que c'est gadget ou est-ce que ça peut faire quelque chose dans la relation qu'on a avec son animal ?
Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on a une relation de plus en plus proche avec nos animaux de compagnie, ce qui d'ailleurs est assez paradoxal avec la relation qu'on a avec les autres animaux. Mais effectivement, on observe que le chien, il fait de plus en plus partie de notre quotidien. Moi, ce que j'aimerais souligner par rapport à ce film, c'est qu'en cette veille de Noël, rappelons-nous peut-être, et c'est à mon avis le sens de tout ce film, le message qu'il essaie de faire passer, c'est qu'on partage tous la même condition, humains comme animaux, on est animé par les mêmes désirs, notamment le désir d'exister, et surtout lié par une communauté de destin. Et je pense, et c'est vraiment le message du film, que l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre, c'est probablement la clé pour apprendre à respecter l'autre dans ses différences, qu'il s'agisse des autres êtres humains, mais aussi des animaux, tout simplement.
Merci beaucoup, Jessica Serra. Merci, Charlotte Canclou, d'avoir été les invités de France Inter pour cette discussion passionnante. Bon réveillon, très bonne fête à toutes les deux.
Merci
à bientôt.
À vous aussi.
Une semaine dans leur vie, maintenant notre feuilleton sur les traces d'Ousmane Dembélé, hein, juste avant le Ballon d'Or fin septembre. Emma Sarango a réalisé cette série de reportages auprès des proches du joueur du Paris Saint-Germain, ceux qui l'ont côtoyé tout au long de sa carrière, qui n'a pas été simple, puisque l'attaquant s'est imposé véritablement cette saison à 28 ans. Pour un joueur de foot, c'est assez tard. Ce troisième épisode commence avec le médecin de l'équipe de France et se termine avec le patron.
Être un très bon joueur de foot, c'est pas simplement taper dans un ballon et puis aller s'entraîner. C'est aussi faire preuve d'une abnégation au niveau mental tous les jours. Tous les jours, il faut remettre le bleu de chauffe. Tous les jours, il faut aller se préparer dans la salle. Tous les jours, il faut aller à l'entraînement. Après l'entraînement, il faut prendre soin de soi. Et c'est ce que Ousmane a très bien fait. Il a mis toutes ses petites briques les unes après les autres. Il a construit sa petite maison, sa petite façon de faire, qui fait qu'aujourd'hui, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et j'espère pour lui qu'il aura le ballon d'or parce qu'il le mérite amplement. Cyril Moine, préparateur physique de l'équipe de France depuis août 2019. On ne se rend pas compte du talent du joueur dans l'aspect motivationnel et dans l'aspect mental tout simplement.
Ousmane, une petite crevette, c'est tout ce qu'on peut en dire au départ. Christian Lecoq, moi je suis médecin au Stade Rennais depuis 28 ans. Ils vont côtoyer des joueurs qui font 1m80, même à 15 ans. Je pense qu'il était plutôt près des 1m60. Non, c'était un petit gabarit.
Et est-ce qu'au début, vous vous dites son gabarit de crevette, comme vous dites, ça va poser problème ?
Au départ, non, parce qu'on se dit il va se construire musculairement. C'est pas devenu un monstre, un adepte de la muscu à outrance. Hein, mais il avait autre chose.
Moustapha, vous qui avez suivi Ousmane dans tous ses clubs, comment est-ce qu'il a vécu ces blessures qui l'ont éloigné des terrains plusieurs fois et à chaque fois pendant plusieurs mois ?
Après toutes les blessures qu'il a eues, généralement, il devait faire les tests, savoir la nature de la blessure, etc. Et généralement, quand on avait la mauvaise nouvelle sur le retour, la phrase qui revenait toujours, c'était qu'après la pluie, il allait avoir le beau temps. Il y a eu quand même de la déception, parce que c'est ce qu'il aime faire, jouer au football. Ça lui tenait à cœur de bien faire pour le FC Barcelone, mais il a toujours gardé le sourire.
Quand il revient ici, à Paris, au campus PSG, qui est presque chez lui, on n'est pas loin d'Evreux, il vous retrouve ici, Lucas Hernandez, vous qui êtes son coéquipier en équipe de France, et vous assistez donc à cette saison magistrale, la saison dernière, qui va le mener au sacre en Ligue des Champions.
Ça a été un leader, sur le terrain et en dehors du terrain. Dans les moments plus compliqués, surtout en début de saison, que tout le monde peut-être nous critiquait ou ils n'étaient pas derrière nous. Ousmane, il a pris l'équipe avec lui. C'était un moment compliqué, on ne marquait pas de but, mais lui était confiant qu'une fois qu'on marquait un but, après ça allait être comme du beurre, ça allait rentrer tout facilement. On l'a suivi. Je pense qu'il a fait la meilleure saison de sa carrière. C'est pour ça que on a gagné 5 titres cette année et c'est grâce à lui, bien sûr.
Cette carrière en dents de scie, c'est aussi ce qui le rend attachant, finalement, Ousmane Dembélé, pour vous, Didier Deschamps, son sélectionneur.
Il y a certains qui ont des parcours classiques, mais il y en a d'autres, heureusement. Ça laisse le rêve permis à d'autres qui ont un départ peut-être pas classique, mais qui arrivent au plus haut niveau. De par ce qu'il fait, c'est tout le mal que je lui souhaite et j'espère qu'il pourra être récompensé individuellement.
Suspense, everyone.
Vainqueur du Ballon d'Or France Football.
Il mérite d'avoir cette récompense.
Voilà, il l'a mérité, il l'a eu, ce trophée de meilleur joueur du monde sur les traces d'Ousmane Dembélé. Notre feuilleton continue bien sûr demain avec Emma Sarango.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, Eric Fotoino avec nous. Vous nous parlez d'une chose rare et convoitée, surtout dans les périodes de fête. Eric, propice à tous les débordements sonores.
Oui, cher Kevin, vous connaissez l'adage, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Vous l'aurez compris, je rêve d'une chronique qui ferait du bruit sans rien céder au silence que les Français recherchent parfois désespérément. Et il faut revenir au temps troublé du Covid, comme si le silence avait parti lié au drame, pour trouver des villes silencieuses, un périph quasi muet, des quartiers entiers revisités par les chants des oiseaux qui soulignaient soudain à quel point le silence régnait. Son ennemi, le bruit, est devenu un fléau national, pour ne pas dire mondial, et la France est moins belle depuis qu'on a les décibels en folie, comme bien des pays industriels. En France, près de 10 millions de personnes souffrent de ce qu'on appelle désormais la pollution sonore. Le Conseil national du bruit estime à près de 150 milliards d'euros le coût social du bruit dans notre pays, bruit routier, bruit aérien, bruit ferré, autant de causes d'altération de la santé physique et psychique.
Mais il y a silence et silence, Eric, celui que l'on recherche et celui qui inquiète.
Vous avez raison, tous les silences ne se valent pas. En cette trêve de Noël, l'historien Alain Corbin rappelle que le silence religieux observé depuis des siècles à l'abbaye cistercienne de la Grande Trappe peut paraître effrayant, comme le notait Chateaubriand dans La vie de Rancé. Jean-Jacques Rousseau, dans ses rêveries du promeneur solitaire, distinguait de son côté le silence de la nature qui encourage la pensée du silence absolu qui attise la tristesse. Mais au fil du temps, le silence est devenu un marqueur social recherché. À partir du 19e siècle, les élites ne supportent plus le tintamarre des villes qui étaient, il faut le dire, plus bruyantes que de nos jours, avec le bruit des roues de charrettes sur les pavés, c'était avant le pneu en caoutchouc, les cris intempestifs des coqs ou même des vaches qu'on éventrait parfois dans les rues. Après la guerre apparaissent les panneaux « Hôpital, silence », un préfet interdit les concerts de klaxons, l'espace public tend à rejoindre l'espace privé jusqu'à l'explosion des bruits modernes, la télé dans les cafés, les sonneries intempestives de portables au restaurant.
Aïe aïe aïe, mais que faut-il faire alors contre le bruit ?
Évidemment, lutter contre les décibels. À Villeneuve-le-Roi, en Val-de-Marne, une commune collée à l'aéroport d'Orly montre que s'il est difficile de réduire le bruit des avions à la source, on peut tout de même suspendre le trafic aérien. C'est le cas entre 23h30 et 6h du matin. Mais cette coupure de 6h30 est insuffisante au regard des 8h de sommeil consécutives prônées par l'OMS. Des pétitions transpartisanes demandent ainsi un arrêt du trafic aérien 30 minutes plus tôt à 23h. À cela s'ajoute une aide à l'insonorisation des logements des riverains, prise en charge par Aéroports de Paris. Voilà, cher Kevin, ma chute aujourd'hui est un grand chute. J'ai évité de parler trop fort et je vous offre 3 secondes de silence que vous reconnaîtrez, j'espère, comme le bonheur de Prévert au bruit qu'il fait quand il s'en va.
Un tout petit peu de silence, on n'a pas le droit à beaucoup plus, à la radio ça marche pas, merci Eric Fotorino. Ce silence, on va le rompre, mais pour de bonnes raisons, avec C'est une chanson, Frédéric Pommier et une semaine spéciale Charles Aznavour. Aujourd'hui, réécoutons cet entretien avec Eric Alphen, magistrat et auteur de romans policiers. Il avait choisi d'évoquer une chanson sortie en 1967, le mythique « Emmenez-moi », un morceau qui compte beaucoup dans sa vie.
Il a surtout compté dans mon enfance, parce que ma mère, qui était juive de Tunisie, mais donc qui a passé toute son enfance en Tunisie, qui s'est retrouvée sans doute dans la grisaille parisienne, chantonnait tout le temps « La misère serait moins pénible au soleil ». Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avant même de connaître Aznavour, avant même de voir le disque, parce qu'à l'époque j'avais 7 ans, hein, je connaissais ce refrain, si je puis dire, que ma mère chantonnait. Chantonnait dans la salle de bain, dans la cuisine, etc. Et donc, je ne peux pas voir cette phrase-là, enfin la voir ou l'entendre, sans penser à ma mère.
Et votre mère, finalement, elle savait peut-être que la misère était effectivement moins pénible au soleil ?
Mais je pense que, bien qu'heureuse à Paris, peut-être quelque part, le soleil tunisien lui manquait. Et quelque part, ça résonnait en elle comme étant « Est-ce que j'ai bien fait, finalement, de quitter la Tunisie, quoi ?»
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, de reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Elle racontait justement les voisins, les gens qui se côtoyaient. Elle me parlait beaucoup de l'occupation en disant qu'elle avait une chance énorme que ce soit les Italiens qui soient arrivés, non pas les Allemands. C'était l'occupation, mais c'était quand même à la Méditerranée. Du coup, elle avait toujours une espèce de gratitude, entre guillemets, pour les Italiens, quoi.
Vous avez été en Tunisie avec elle ?
Ouais, pas avec elle. Je suis allé 2-3 fois à Sousse et j'ai pas retrouvé la maison. Elle-même est allée à Sousse, on en parlait. Elle a été extrêmement déçue parce que c'était plus du tout comme dans son rêve. Comme dans son passé. Voilà.
Elle a vécu jusqu'à quel âge ?
Malheureusement, elle est morte de Creutzfeldt Jakob. Elle est partie en 3 mois, à 69 ans, en oubliant quasiment nos prénoms et qui j'étais. Creutzfeldt Jakob, tel qu'elle l'a eu, c'était Alzheimer en accéléré. C'est-à-dire que c'est très, très, très violent pour les proches.
Est-ce que ça veut dire que cette chanson-là d'Aznavour vous fait penser à la fois à votre mère et à la Tunisie.
La Tunisie que j'ai pas connue, mais en tout cas ma mère en Tunisie. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est l'inverse d'Aznavour, qui lui est du Nord dans la chanson et qui rêve de soleil, mais finalement il n'y va jamais.
Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondille de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords.
Est-ce que c'est une chanson que vous avez partagée avec d'autres en racontant cette histoire et en racontant votre mère ?
Absolument pas. C'est drôle parce que je me suis dit, justement, en réécoutant récemment la chanson pour l'émission, là, que j'aurais dû en parler plus à mes enfants, par exemple. Ou en parler à mes enfants, je ne l'ai pas fait. Donc je vais peut-être le faire, en fait. Je vais peut-être leur faire écouter les chansons en leur disant « Mamina, écoutez beaucoup cette chanson-là. »
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 la.
Emmenez-moi donc, le choix du magistrat et romancier Eric Alphen avec Frédéric Pommier. La semaine spéciale Aznavour se poursuit évidemment demain dans C'est une chanson.